Soignier avec Leïla Casoulet, Morgan Cadignan, Fanny Rué, Daniel Morin, Tanguy Passureau et nos invités Déborah François et Raphaël Persona.
Oui,
normalement, t'es heureuse quand il y a Raphaël Persona.
Mais avec Déborah aussi. Hein.
Moi,
je les adore, tous les deux.
Je crie pour Déborah, tu cries pour Raphaël.
Je vais les accueillir tout à l'heure.
Ou l'inverse.
D'accord.
Tout me va.
Voilà.
Ils ont, ces deux actrices-acteurs, ont réalisé des courts-métrages. C'est le principe pour...
les talents Adami.
Exactement, l'Adami, les talents Adami Cinéma. Ouais. Avec, avec une projection...
Pardon. C'est pas les talents Adami Flûte.
Ça existe.
Vous savez,
ouais, ça existe,
ouais,
bien sûr. Bah, Nagui.
Vous allez me pourrir. Attends, excusez-moi. On démarre la semaine.
Je crois que c'est mon projet cette semaine.
Je partais sur de bonnes bases.
Ouais.
Et ok, ton projet c'est de me pourrir la vie.
Pas.
Ouais, ok, très bien.
C'est un projet comme un autre.
Et donc,
on peut jouer.
Les projets.
Venez.
Pas après ce qui s'est passé entre nous. T'as pas le droit. Attention, voici le blind test autour des talents Adami.
Johnny Cash, Daniel.
Adamo à tout.
Daniel.
Leïla.
Leïla. Leïla.
Oui, mais interprète.
Ah bah Johnny.
Mais bien sûr, leurs cheveux
n'étaient
pas assez longs.
Qui chante ça?
Leïla.
Leïla.
Michel Berger.
Non.
Sanson.
Oui.
Ah. Ah ouais, c'est long. Ah, donc c'est les cours, hein, cours.
Ouais, elle est là.
Donc vous avez compris le thème.
Les vieux.
Pardon?
Les vieux. Les vieux.
Les vieux.
Non, ou c'est long.
Non, Fanny.
Ou c'est long ou c'est court.
Ah, ça arrive, mais vieux aussi.
Ça arrive, les gars. C'est ça le thème. Qui chante ça?
Daniel, Long Chain Running.
Oui. Mais tu m'as pas dit qui?
Non. c'est vrai, Nagui.
Mais Long Train Running est une bonne réponse. Ah. C'était les Doobie Brothers.
On peut faire les refrains. Attention.
C'est quand la Adami flûte, c'est quand
mais c'est pour
déjà
demain.
La Adami juste, c'est tellement
déjà,
faux.
Bah, bien sûr. On est mal parti.
Oh, le karaoké est pourri.
Ça, tu vois.
Qui chante ça? Donc, il y a forcément long ou court dans le titre. Ah, chante tu la Morgane.
Leïla, Ize?
Non.
Non.
Ize?
Je sais pas, je tente.
C'est Ize.
Leïla, Sanson?
Non. Ça aurait été un piège, deux fois sans son.
Ouais.
Et finalement.
Daniel.
Morgan.
Le temps qui court.
Morgan, oui. Oui. Moi, j'arrête de dire Barry Manilow, mais c'était la version
c'est qui,
anglaise.
Alain Chamfort.
Ah, ben oui.
Moi, j'avais la version de.
Ouais.
Anglaise.
Ok.
C'est un retour en fanfare pour l'instant pour Daniel Morin.
Qui est tout noir aussi.
Bonne réponse.
Ah bah.
Leïla, Lizzo?
Non. Toi, tu fais Ize, Lizzo.
Kiki. On court, on dort, on court, on se réveille. Le temps court encore, on est à court de sommeil.
Très connu,
on français,
mondialement connu.
On court après le
si, c'est vrai.
Et là, Amir.
Non,
ça dit quoi?
On court. C'est Daniel qui demande si c'est français. Mais si, on le connaît.
Il fait quoi d'autre?
Mondialement connu.
Leïla Mika, pas du tout.
Florent Pagny,
bah non. L'amour après la
prochaine rencontre. Grégoire.
Steve.
Michel.
Bob.
Matt Pokora.
Non.
Bonnaresse.
Plus, plus, plus âgé.
Bonnaresse.
Non. Moins âgé.
Sinclair. Non. Gaël Monfils, un truc comme ça.
C'est
Tony Barker.
Tony Barker.
Non.
Non.
Yannick Noah.
Oui.
Ah, mais je l'ai dit.
C'est ça, j'étais pas sûr, je te regardais, tu t'as pas voulu répéter.
Ah bon, bah non, parce que...
Fanny, non mais Fanny, Yannick Noah, ouais.
Et ben
plus,
voilà.
En plus, t'as le survêt,
je l'avais pas fait. Ouais.
Si, si, c'est Yannick. Bah, qui chante ça? Il y a long ou il y a court dans le titre?
Armanet?
Non.
Ah non,
c'est un bon anglais.
Fanny, c'est Taylor Swift.
Parfait.
Ok.
De 2 points pour Fanny, 4 pour Daniel. Tout se joue sur le super combo. Ça rapporte 5 points et la victoire.
Ah, Morgan, Mr. Oiseau?
Non.
Lisa Felstein?
Non.
Je l'ai pas, ça. Justice?
Non.
Daft Punk?
Ouais.
Okay. Oh non!
Ah, le hasard!
Oh, le vol!
Non, ça me fatigue.
C'est hold up.
Short, c'est oh, en même temps, il était en tête.
Ah, ouais. Il revient de vacances.
Mais
il
j'aurais jamais dû trouver Daft Punk. Mais bon, Daniel, merci.
Nous nous inclinons devant tant de connaissances.
Ça fait mal.
Si, quand même, bah si. Carton, allez, un carton, et au moins, il faut le dire. Il faut le dire, surtout qu'il nous a beaucoup manqué dans les bêtises.
Il n'y a que moi qui t'applaudis, Daniel.
Je sais, c'est moi qui t'aime. Je peux compter sur toi.
Merci d'accueillir
l'hypocrite
Déborah, François et Raphaël Persona.
Il a ma place. La bande originale avec Maggie.
Bienvenue, chère réalisatrice, réalisateur. C'est trop la classe.
Merci.
C'est trop la classe. Alors, on parle de ses talents à Dami Cinéma, donc, et pas flûte.
Et pas flûte.
Qui se déroule à partir de mardi prochain, c'est ça? C'est la semaine prochaine que ça commence?
C'est diffusé à partir du 17 mai sur la plateforme de France Télé.
Donc
c'est demain.
France.tv.
Sinon,
à Cannes.
Et puis la grande première, évidemment, au Festival de Cannes.
Voilà, la salle du 60e, ça se passe pendant le Festival de Cannes. Et avant les programmes sélectionnés à l'Association du cinéma indépendant pour sa diffusion, ça sera à partir du 24 mai prochain. Et en avant-programme des films primés la semaine de la critique, pendant la semaine de la critique, le jeudi 26 mai. Tout cela se passant dans la salle Miramar. Et puis en plus ça passera ensuite en septembre. Bref, vous vous êtes retrouvés dans ce projet où il y a également Pascal Arbillot, Aïssa Maïga. Comment, en étant actrice, acteur, on se retrouve derrière une caméra? Est-ce que on est venu vous chercher ou est-ce qu'on postule? Déborah, comment s'est passé pour vous en tout cas?
Moi j'ai reçu un coup de fil un peu out of the blue qui me faisait cette proposition.
Out of the blue. Et,
oui, hors du bleu.
Hors du bleu. Hors du bleu, voilà, complètement. Non, j'ai reçu ce coup de fil qui me proposait de participer à ce programme, de faire un court-métrage. Et je vous avoue qu'au début, j'étais un peu surprise. Et puis je me suis
dit que... Vous n'aviez rien réalisé avant ?
Je n'avais rien réalisé avant, mais je me suis dit que mon argument, c'était toujours de dire aux femmes qu'on n'était pas assez réalisatrices, productrices et dans des comités de décision. Mmh. Et que du coup, si moi je disais non, voilà.
Donc, il fallait plus que je me plaigne
je ne pourrais plus jamais parler. Donc, comme je ne peux pas me retenir de parler, il fallait que je le fasse.
Même réaction pour vous. Vous avez dit, il n'y a pas assez de Raphaël en tant que réalisateur. Je vais donc dire oui cette fois. Comment ça s'est passé, vous?
En fait, j'avais bien envie depuis pas mal de temps de passer à la réalisation. Et ce format du cours me faisait un peu peur. Donc, je me suis dit, tiens, il faut y aller parce que je trouve toujours très compliqué de raconter une histoire en 10 minutes. Et là, tout s'est fait un peu rapidement pour tout vous raconter. J'ai eu un mois pour écrire et tout préparer et réaliser.
Mais c'est vous qui avez proposé votre candidature, ou on vous a pareil appelé en disant est-ce que vous accepteriez de le faire ce
projet?
On
m'a appelé.
Pareil. Ok, voilà. D'accord. Donc c'est pas vraiment une démarche dans un premier temps personnel. Vous n'étiez pas avec un texte ou un scénario déjà existant, avec des comédiens, des directeurs photos sous la main. Tout a dû se faire du jour au lendemain.
Exactement. D'une page blanche. De zéro, quoi, justement.
Ouais. Out of the blue, quoi.
Out of the blue. Ça a été vraiment le.
Ouais,
ça y est. L'émission est faite là. You make my day.
À partir du moment où on dit ok, j'y vais, d'abord c'était il y a un an, il y a quelques mois, quel est le calendrier, Déborah?
Ah ben, moi personnellement c'était début juillet, mais Raphaël c'était beaucoup plus kamikaze pour lui.
Donc quelqu'un avait annulé.
Oui, c'est un peu ça. Moi je suis toujours le deuxième choix, mais c'est vrai. Je me suis habitué.
L'important, c'est de tenir la place. Donc, vous avez eu une petite année pour vous, six mois pour Raphaël, c'est ça, pour écrire. La proportion du...
Non, moins.
Oui, c'est vrai, moins. Il faut que ça soit prêt, oui, c'est ça. Bon, tous les deux, vous avez eu six mois, ça va, je vais pas discuter. La proportion entre le temps, j'ai envie de dire, de le labeur derrière sa page ou son ordinateur et ce qui doit vous plaire avant tout, c'est-à-dire être sur un tournage, diriger des acteurs, être au montage et ainsi de suite. Est-ce que c'est vraiment du 50-50? La partie écrite est beaucoup plus longue que ce que l'on imagine, ou au contraire plus courte?
La partie écrite est longue et je voudrais d'ailleurs remercier cette année. En fait, on a fait quelque chose dans le programme qui ne s'était jamais fait avant. C'est quoi ? On a engagé des scénaristes.
Vous avez été
accompagnés.
Donc,
on a été accompagnés. Mmh. On a pu co-scénariser. J'ai co-scénarisé avec Rosalie Moja, qui est une jeune scénariste. Et c'est vrai que c'est un temps assez long, l'écriture. Mmh. Mais moi, c'est un temps que j'ai vraiment adoré, quoi. C'était génial. Je pense qu'on a écrit de juillet à octobre. Et les films devaient être tournés en janvier. Ouais. Donc
Et quand vous avez écrit, vous aviez, en écrivant entre guillemets, les images en tête, ou vous avez commencé par faire une structure, comme on fait une disserte, quoi, en disant voilà ce que je fais en intro, voilà ce que je fais en conclusion, voilà comment je vais développer.
Bah, comment ça s'écrit? Je pense qu'on a travaillé tous les deux différemment, mais moi, nous personnellement, avec Rosalie, on s'est centré vraiment sur quatre scènes centrales pour avoir le plus de temps en fait à l'image des comédiens. Parce que c'est quand même un programme qui est fait...
Pour mettre en avant des jeunes talents.
Ouais. Donc du coup, l'idée, c'était de leur mettre le plus de temps à l'image possible et de leur donner les plus grandes... des scènes qui puissent vraiment montrer toute l'étendue de leur talent et de leur jeu. C'était vraiment le but, quoi.
Alors, c'est étonnant, hein, voyant ces courts-métrages, à quel point le choix des comédiens que vous avez pu faire résonne avec qui vous êtes. C'est-à-dire que en vous connaissant, en vous ayant vu dans des films, j'ai eu la sensation qu'il y avait une forme de transfert sur au moins un des personnages dans l'intonation, dans le jeu.
Est-ce que vous auriez pu dire qui avait fait quoi ?
J'aurais complètement pu dire que Mouton Noir, c'était vous. La comédienne...
Déjà, c'est comme ça qu'on vous appelle dans le métier.
C'était un bon indice. Hein.
Non, mais j'ai retrouvé dans la façon de jouer ou même dans les intonations, et quelque chose qui m'a... Il y avait une proximité avec chacun d'entre vous. Et vous, Raphaël, avec le conseiller en communication. On va parler de la reine tout à l'heure.
Mais on sent l'escroc. On sent l'escroc. Ouais.
Je vous ai retrouvé là-dedans. Je sais pas, ça vous revient ou pas ?
Écoutez, oui, sans doute. En tout cas, il se trouve que mon court-métrage parle de politique. Mm. Parle de campagne législative, enfin des choses qu'on est en train de vivre en ce moment. Et donc j'avais une approche presque documentaire des choses. Ouais. Donc pour reprendre ce que disait Déborah, moi l'écriture elle s'est faite un peu sur le terrain aussi. C'est-à-dire qu'il y avait une idée comme ça, et puis après sur le tournage même, ça se réécrivait en fonction de mes acteurs et en fonction de leur réaction. Donc ça... Tout a été fait autour d'eux. Je les ai pas ramenés à moi, n'empêche. Ouais. Ils ont apporté chacun leur. Ouais. Je peux les citer.
Il faut.
Alors il y a Camille Clarisse, il y a Amadi Chassin et Logan Antoifermo.
Voilà. Et puis citons également vos.
Bien sûr, vos évidemment.
Acteurs, deux actrices impressionnantes et un acteur. C'est France, Suisse et Belgique. Hein, les trois nations.
Oui, c'est un peu la famille du premier jour du reste de ta vie, où on avait un Canadien, un Français, une Belge. Donc c'est un peu la famille arc-en-ciel, mais ils se ressemblent énormément. Ça marche hyper bien et c'est Vanny Lehmann. Jérémy Gillet et Ludmilla.
Donc,
Jérémy qui est belge et Ludmilla qui est française.
Et question, du coup, vous saviez déjà qui vous vouliez comme comédien ou ça s'est casté après ?
Non, ça c'est vraiment le truc central du programme, si je puis dire, c'est qu'on avait un fichier avec, je crois que cette année c'était 1096 candidatures.
Ah, wow.
Et donc dans ça, on a chacun choisi, moi je crois que je pense que j'ai vu 450 vidéos.
Oui, donc sur les 6 mois, il y en a eu 4 de casting.
Sur les 6 mois, il y a eu 4 mois de casting. C'est
j'ai tenté.
Van.
Ah oui, pardon, excusez-moi. Non, je croyais que j'étais sur les 4 comédiens. Pardon.
Et non, mais ce qui est important de préciser, c'est que vous choisissez sur des, comme vous dites, pas uniquement sur photo, ni encore moins sur un parcours ou sur un CV, parce qu'ils n'ont pas tous non plus énormément tourné. C'est encore une fois le principe. Ils ont tourné, mais pas forcément énormément. Donc vous voyez des vidéos qui sont des bouts d'essais ou des montages, mais en tout cas qui ne sont pas des bouts d'essais de votre propre.
Pas du tout. Après, il y a un casting, donc il y a une première sélection qui est faite sur ces éléments-là pour qu'on voit au final une dizaine, une quinzaine de comédiens par rôle.
C'est ça, après il y a le callback.
Et qu'on les choisisse. Donc,
il y a le callback out of blue qui arrive et là il faut y aller.
Et puis il faut dire à ceux qui ne sont pas prêts.
Vous êtes des merdes.
Non mais vraiment, c'est vrai que ce truc-là, quand on est comédienne, c'est hyper cruel en fait, le moment où on doit dire à des jeunes, en plus ils savent que ça va aller au Festival de Cannes, qu'ils vont faire une montée, enfin c'est terrible.
Et généralement on trouve la phrase, hein, tu es super belle, tu joues extrêmement bien, mais justement tu es trop belle et tu joues trop bien pour le personnage. C'était ça dans la phrase qui avait été dite
C'est ça.
On en avait parlé mais, avec Bérénice Bejoux.
Ouais, voilà.
Bérénice Bejoux,
c'est, c'est Michel Hazanavicius qui a failli lui refuser le rôle pour ça.
Tu es trop belle, tu n'auras pas le rôle. Ouais. En tout cas, pendant qu'on en parle, allez voir Coupé, parce que c'est un film de dingue, de malade, qui sort ce mercredi au cinéma. On va continuer de parler évidemment des courts-métrages et de l'Adami avec vous, mais d'abord, voici Morgane Casignan. Ni Déborah ni Raphaël d'ailleurs, les deux.
Non, les deux, mais je vais me concentrer sur Déborah parce que Raphaël, je l'ai déjà déboîté l'année dernière. Ça va pas du tout cette phrase. Non, mais c'est dans le sens où vous êtes déjà venu. Ça va pas non plus cette phrase. Mais
c'est un double titre.
Oh là 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 là.
Déborah, vous êtes née à Liège, en Belgique, et vous êtes là quand même parmi nous, droite et résiliente. Et on peut que vous respecter, donc je vais être douce. Et puis en regardant votre carrière, mes grands respects. Comme tout Belge, vous commencez dans L'Enfant, des Frères Dardenne. Bim, Palme d'Or à Cannes en 2009, César pour votre rôle dans le formidable Premier jour du reste de ta vie. C'est moi qui trouve le film formidable. Il s'appelle juste Le Premier jour du reste de ta vie.
Il est formidable.
Pas juste le premier. Ouais. Bon, bref, je continue. En 2010, vous incarnez pour Emmanuel Berco une étudiante obligée de se prostituer pour payer ses études. Et là, pas de doute. Bienvenue. Vous êtes bien arrivé à Paris. C'est terrible dans cette ville. Non, mais les jeunes qui se prostituent, mais même parfois pour des apparts, quoi. Après 90 mètres carrés, pointe de Hongrie, c'est vrai que je suis bien, quoi. Ah, et le proprio est sympa. D'ailleurs, Nagui, j'ai pas eu ma quittance pour avril. Aujourd'hui, vous réalisez le court-métrage Mouton Noir dans le cadre des talents Adami pour Cannes. Et qu'est-ce que c'est bien, les courts-métrages. Qu'est-ce que j'adore ça. Non, mais pour des jeunes parents actifs et amateurs de rosé, je veux dire, c'est le format parfait, quoi. Parce que c'est des gens qui se mentent plus en choisissant les films. Ouais. Ton gars, il te dit, choisis ce que tu veux. De toute façon, dans 15 minutes, je vais m'endormir, quoi. Tu pouvais pas t'endormir il y a un an, au moment de la conception, non? Enfin, parce que c'est ici même que le problème a commencé devant Netflix. Et en conséquence du problème, on n'a plus le temps de regarder Netflix. Après, je dis on, je m'englobe par solidarité hein, dans tout ça. Moi, je n'ai ni enfant, ni Netflix, j'ai à peine un canapé, je veux pas d'attache, je suis une fille du vent, quoi. Dans le sens où j'en prends pas mal, voilà. J'avais un enfant jusqu'à la semaine dernière, j'avais un gosse, c'était mon scooter, et il m'a été volé. Apparemment, il avait pas d'attache non plus. Et là je pense qu'on mérite un petit coup de cymbale, voilà, de l'Orchestre Symphonique de Radio France. Ceci dit, si mon expert assurance entend cette chronique, je précise que, évidemment, il était bien attaché et surveillé par 8 dragons. En voilà une Jean-Jacques. Donc, des courts-métrages, c'est parfait. On a un peu l'impression de suivre des films réalisés par des gens talentueux et joués par des gens dont on entendra beaucoup parler dans quelques années. Comme ça, nous, on pourra être insupportables et nous, on pourra se la péter en disant « Ah mais ouais, mais cette petite meuf, je la connais, je l'ai vue il y a 3 ans dans le cours de Déborah François. » Parce que quand t'es insupportable, tu dis pas court-métrage. T'as pas le temps de dire métrage parce que t'as rendez-vous avec un dire-faute à Saint-Laz. Mais la paix, quoi. Et donc, grâce à vous, merci, on pourra name-dropper comme des porquis à longueur de terrasse. Ah mais Ahmed Amadi Chassin, ouais, je l'ai vu dans un cours de Raphaël Persona, mais il y a des années. Alors, chez les gens comme ça, il y a des années, c'était il y a 6 mois et demi. Donc, Déborah, vous réalisez Mouton Noir. Raphaël, vous réalisez La Reine. La Reine, pas comme la reine, la femme du roi, la reine comme une arène. Et quant à moi, je réalise que c'est super lourd ce running gag et qu'il faut terminer cette chronique. Et pour faire mon petit moment cannois à moi aussi, je terminerai en disant merci à tous et vive le cinéma.
Yes.
Daniel.
Oui, alors sachez que Morgane, évidemment, sera en spectacle. Un formidable spectacle. Elle joue à Versailles les jeudis, vendredi et samedi. Non, mais je suis encore sur l'émotion d'avoir vu.
Jeudi, vendredi et samedi.
C'est un fuseau horaire.
Oui.
Merci.
Jeudi, vendredi et samedi.
Où ?
À Versailles. À Versailles.
Très bien, c'est chic. C'est mieux que Cannes, n'empêche. Revenons donc à Cannes et parlons de l'essentiel, c'est-à-dire le aussi bien le fond que la forme de ces courts-métrages. Mouton Noir, ça commence mal, c'est un double assassinat. Les parents de deux sœurs et un frère ont été tués. L'une est internée, l'autre lui rend visite et le frère a disparu.
L'une est internée pour le meurtre de ses parents, tout à fait, dont elle a été reconnue irresponsable. Ça parce qu'elle est schizophrène.
Ça ne m'étonne pas de vous, Déborah. Voilà, un scénar comme ça, c'était sûr que c'était vous.
J'espérais tellement que vous disiez pas ça, mais si vous diriez le contraire. Vraiment, c'est tellement une surprise de vous voir dans ce genre. C'est à contre-pied total
non,
et non.
Mais voilà. Non, c'est vous, ouais. C'est l'idée de départ, comment elle est venue
J'aime les films de genre, j'avais envie de faire quelque chose qui soit glaçant, en fait.
Oui, parce qu'il faut rappeler que les premières fois où on écrit, c'est souvent autobiographique, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas dans cette situation-là.
Je dirais ça à ma grande sœur et à mon petit frère.
S'il vous plaît, ouais.
Non mais c'est venu quoi d'un fait divers ou d'une volonté donc de faire un court métrage genre
ouais. C'est une volonté non c'est en réalité c'est sont des thèmes pas le sujet mais ce sont des thèmes en fait que j'avais envie d'explorer dans un long métrage. J'ai des notes pour un long métrage, j'ai d'ailleurs écrit un long métrage
en espagnol et je suis en train d'en écrire en français. Et donc, mais du coup, c'est des thèmes voilà, que j'avais envie d'explorer. D'accord. J'ai repris les mêmes thèmes avec une histoire différente.
Vous, Raphaël Persona, vous partez sur l'idée de la communication politique d'une jeune femme qui est en campagne, qui va sur le terrain à la rencontre de manifestants dans un hôpital. Là, mouvement de foule, puis agression où elle se fait gifler par un manifestant, ce qui déclenche évidemment le buzz entre guillemets sur les réseaux sociaux, voire des invitations dans des journaux de 20h, c'est-à-dire la communication.
Vous avez tout raconté.
Ouais, c'est ça.
Bah, c'est ce que j'ai lu dans le. Non, j'ai trouvé que le pitch était. Il y avait tout
déjà qu'il
pitch,
il peut emballer tout. Un long. C'était dans une émission. Alors un cours, je vous raconte.
Je vais même vous dire la fin du pitch qui était.
Non,
accrochage devant les caméras.
Je sais.
Ça ouf.
Ils en disent trop.
On est d'accord.
Ils en disent beaucoup.
Non, on peut juste dire que c'est une jeune candidate parachutée pour des législatives.
Exactement.
Dans une circonscription qu'elle connaît pas. Et ça, c'est pas complètement de la fiction. C'est pas de la fiction d'être parachutée dans un endroit qu'on connaît pas.
Non.
Et c'est une jeune femme qui a pas beaucoup d'expérience, qui est accompagnée de son conseiller, directeur de campagne. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre?
On peut dire, oui, elle a pas beaucoup d'expérience sur le terrain. Après, elle est sans doute très compétente, mais elle a pas les armes de communication, quoi. Non,
mais qu'est-ce que vous avez voulu montrer là-dessus? La manipulation de la politique, la
dictature de l'émotion. C'est quoi ça?
D'accord.
Alors c'est quoi? Je vous explique. Wow. Vous avez 2 heures. Non, c'est-à-dire comment on peut manipuler évidemment les électeurs, la foule, tout ce qu'on veut par l'émotion. Comment on peut en 2 temps 3 mouvements faire de quelqu'un une victime et se servir de ça pour la valoriser. C'était un petit peu ça le concept de départ et puis aussi non, ce qui m'intéressait c'était de voir ce qu'on a pu voir il y a 5 ans, c'est l'arrivée de plein de jeunes gens dans la politique. Donc je caricature un peu, mais avant, on avait un peu le vieux bedonnant comme ça avec le cigare,
l'éléphant.
D'aucun parti. Et puis après, on avait un peu le jeune techno qui arrivait et puis qui arrivait pas à parler aux gens, quoi, qui sans doute avait des compétences, mais qui avait pas qui avait pas l'empathie, qui avait pas l'expérience aussi. Et donc ça m'intéressait de parler de cette génération-là, de parler de jeunes gens confrontés au pouvoir aussi, comment ils s'en sortent avec ça et comment ils sont obligés de passer par certains codes de la communication pour exister.
Et quelles concessions ils sont obligés de faire.
Ouais.
Avec leur je sais pas, leur honnêteté, leur dignité.
Ouais, leur dignité. Et puis se dire, ne pas les condamner, se dire que sans doute c'est des gens qui ont de profondes convictions, mais en effet, pour aujourd'hui, enfin c'est un peu une formule creuse, mais c'est un peu vrai, c'est-à-dire ce qui est le plus important, c'est le faire savoir que le savoir-faire. Ouais. Et pour eux, c'est
bon,
vraiment... Ouais, c'est pas mal.
C'est
hein.
Bon, ça.
C'est une punchline que j'avais un peu travaillé.
Je vais essayer de la remplacer.
C'était le premier titre. Et après, ils ont dit non, l'arrête.
C'était un peu long. Ouais.
Sur le casting, sur la manière de travailler, là, vous avez découvert, enfin, du moins, quelle a été la découverte la plus importante, celle de la technique, la lumière, comment placer la caméra, le découpage, le montage, ainsi de suite, ou la direction d'acteur, Déborah François?
Franchement, les deux ont été hyper agréables, mais juste savoir qu'on peut travailler avec des jeunes comédiens et les mettre en lumière, en fait. Enfin, moi, j'ai beaucoup mis ça en parallèle avec mon histoire. J'ai eu la chance de pas venir d'une famille de cinéma et voilà, d'être aidée par deux personnes qui sont les frères Dardenne. J'ai eu énormément de chance. Si, à mon échelle, à moi, évidemment, sans me comparer, aucunement, je peux, comédiens-là qui sont quand même, enfin, ils sont géniaux, quoi. Vraiment, faut les voir dans le film.
On peut détruire une actrice ou un acteur avec un cadre mal fait, avec une lumière pourrie, un montage où on prend pas les bonnes prise et ainsi de suite.
Mais donc, ça, c'était le kiff d'être la patronne là-dessus, d'avoir été sur autant de tournages et en fait se rendre compte qu'on a pris des bouts de connaissances un peu partout et travailler. Moi, j'ai beaucoup travaillé justement les cadres, la symbolique. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses qui me parlaient. J'avais plein de
et la direction d'actrice, d'acteur, c'est-à-dire la posture.
On a énormément travaillé avec eux. Moi, j'ai
la gestuelle, parce que les deux, quand les deux sœurs se font face autour d'une table, elles se tiennent pas de la même manière.
Non, elles ne se tiennent pas de la même manière. Et d'ailleurs, pour Ludmila Makovsky, on l'a trouvé vraiment au tout dernier moment des répétitions. On a beaucoup répété. Et au tout dernier moment, je lui dis, il y a un truc qu'on cherche, qu'on n'a pas en fait. Fais la même scène, mais je veux que tu ne bouges pas d'un poil. Tu te mets hyper droite et tu ne bouges pas. Je veux voir juste ta bouche bouger. Donc elle m'a regardée comme si j'étais un peu bizarre. Elle l'a fait et on a vraiment trouvé un truc pour le personnage. Pour Vanni Lehmann, je lui ai proposé de mettre une oreillette. parce que comme elle est schizophrène, elle doit entendre des voix. C'était quelque chose que je voulais utiliser dans le film. Je voulais que le public en fait entende les voix qu'elle a dans la tête. Et du coup, je lui proposais, voilà, est-ce que ça t'intéresserait qu'on fasse... Du coup, on lui a mis une oreillette, je lui mettais des voix atroces dans la tête pendant qu'elle jouait. Et elle a trouvé que ça l'aidait vachement. Enfin, c'est aller chercher des petites choses comme ça. On a cherché d'autres choses avec le personnage de Jérémy, qui est beaucoup plus mystérieux, et qui fait du funambule alors qu'il n'a pas de fil. Enfin,
il
voilà.
Est bouleversant.
M'en parlez pas, moi je les adore. Ils sont géniaux.
Vous, Raphaël, le personnage le plus dur a été de diriger enfin le plus dur, non peut-être le plus plaisant d'ailleurs, diriger des acteurs où la technique, la lourdeur de où on met la caméra, quelle est la lumière, ah bah on est à l'extérieur, il y a un nuage qui passe, la lumière n'est pas la même, il faut reprendre plus tard quand le soleil revient. Enfin,
déjà bon, je dois dire que Raphaël n'a pas succombé à l'image du réalisateur, la casquette sur le tournage, avec le casque, je me suis dit on se paye un kiff.
Ah bah attendez, c'était juste pour la photo du dossier de presse, hein, je me suis habillé en fonction. Non après, sur la... comme j'ai voulu que ce court-métrage soit proche d'un documentaire, il fallait absolument que le chef opérateur s'adapte en permanence aux acteurs avant tout. Donc la technique prenait pas le pas sur les acteurs. Caméra à l'épaule, deux caméras. Et il fallait qu'il fasse en fonction de ce qui se passait. Donc il y avait presque un côté reportage, très très cadré, mais quand même. Et pour les acteurs, en fait, j'ai essayé de les plonger au maximum dans une réalité qui parfois les submergeait. C'est-à-dire que ça se passe, comme vous l'avez dit, dans un hôpital en grève. Alors il y a des militants, il y a à côté de ça des hospitaliers en grève.
Des journalistes qui viennent sur le terrain.
Des journalistes. Donc là, il y avait 90 figurants pour mon premier jour de tournage. C'était mon petit défi. Ouais. Et je les ai bien briefés avant, tous ces gens-là qui étaient venus... hyper gentiment, et ils ont joué le jeu à fond, et j'ai mis les comédiens dans cet environnement-là. Il fallait, alors ils avaient leur texte et tout, mais il fallait qu'ils réagissent en fonction de ce qui se passait sur le moment présent. Donc ça, et puis surtout, moi j'avais une chose qui me guidait pour les diriger, si on peut parler de direction, c'est de leur enlever toutes les peurs. Parce que déjà sur un long métrage, on a peur la première semaine, en général tout le monde se regarde, mais que ça soit l'équipe technique. Oui, on se découvre, donc on veut bien faire, donc parfois on va pas oser se tromper alors que ça peut donner des bonnes choses. Là, comme on avait que deux jours, il fallait quand même aller très très vite et puis faire partie une bonne partie des peurs qu'on peut avoir sur un tournage. Donc j'ai essayé de les faire qu'ils se sentent à l'aise pour essayer des choses, pour se planter. Et puis moi aussi, je me plantais, donc c'était très bien.
Ça dans le cas pas préparé du tout.
Hein, dans le cadre de La Dany, présenté au Festival de Cannes, donc La Reine, réalisée par Raphaël Persona avec Camille Claris, Ahmed Amadi Chassin et Logan Antuo Fermo.
C'est un beau nom. Hein.
J'ai bien dit.
Ouais, très bien.
Et puis côté Déborah François, ce court-métrage, lui, s'appelle Mouton Noir. Il réunit... Ah, je pensais les avoir. Tiens, le casting, je ne l'ai pas. Merci.
Jérémy Gillet, Vanille Lehmann et Ludmila Makovsky.
Merci de rattraper mon erreur. Et voici venir, là, je ne vais pas me tromper, Fanny Ruet.
Nous en parlons d'erreur. Coucou les zouzous.
Salut.
Bonjour. Alors, le sujet d'aujourd'hui... Et le sujet le plus dark et dégueulasse que j'ai jamais choisi, donc c'est probablement la dernière chronique avant mon renvoi.
Adieu.
Professionnel, pas genre... Bref. Donc vous, il va falloir être là. Et les auditeurs, si vos enfants écoutent, éloignez-les de la radio, dites-leur d'aller acheter des clopes et s'ils tiennent de leur père, ils ne reviendront jamais. Let's go. Tout le monde voit ce que c'est un varan ?
Ouais.
C'est une sorte de mélange entre un tout moche comme ça, entre un gros lézard et un crocodile. Eh bien, un article de Vice sorti il y a quelques jours nous apprend que 4 hommes ont violé un varan, puis l'ont cuit et l'ont mangé.
Mais non.
Les hommes.
Est-ce que c'est un court-métrage à Dany?
J'avais vu cette info, ça doit être un truc belge.
Parce que... Ah mais les non, c'était pas en Belgique pour une fois. Non mais les hommes, incorrigible. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Genre c'est malade, les femmes elles ont commencé à ouvrir leur gueule sur les violences sexuelles, les hommes ils se sont rabattus sur les reptiles. Genre on est un sad où même les animaux vont devoir faire leur MeToo, le MeToo-tout.
Non,
il y aura des chiens. Non. Il y aura des chiens en train de manifester, genre les violeurs ne méritent pas de César. Mais genre la pâtée, allez. Et peut-être même. Non, ça méritait les cymbales, mais ok.
Ouais.
Merci.
Oui,
et peut-être même que ces quatre hommes, ils sont tombés. Et peut-être même que ces quatre hommes, ils ont tenté de décrédibiliser le varan. Peut-être ils ont dit, ouais, il ment, il veut briser nos carrières. En plus, le nom latin du varan, c'est Varanus. Est-ce qu'il aurait pas un peu cherché? Du coup, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible, mais le premier truc, je vous jure, que j'ai pensé en lisant cette info, c'est... Alors, il ne faut pas violer les animaux.
Non.
Mais...
Non, il n'y a pas de mais.
Peut-être la solution pour que les gars foutent la paix aux filles, c'est de mettre des varans dans les boîtes de nuit.
Mais non.
Bah, je sais pas.
Pauvre varan.
Écoute, mais il n'y a rien qui va. Surtout que c'est sûr à 100% qu'en ayant Ken un varan, ils vont nous ramener une nouvelle pandémie. Peut-être que c'est ça qui s'est passé avec le Covid. On nous a dit, hein, ils ont mangé un pangolin. Mangez. C'est pas par là. Hein. Et avec Lisa Delmoitier, avec qui j'écris mes chroniques, on s'est posé beaucoup de questions au sujet de cet article. Première question, sûrement la plus importante. Ils sont 4 mecs. Avoir violé un reptile, ça veut dire qu'il y en a un qui a dû lancer l'idée. Genre, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y en a un qui a dit, écoutez les gars, j'ai une idée de ce qu'on pourrait faire, mais j'ose pas vous le dire. À trois, on dit ce qu'on pense. 1, 2, 3, on va à la plage, on vient à la marron. What? Ou peut-être, ils ont tenté la psychologie inversée pour tâter le terrain. Ils ont dit, en tout cas, ce serait vraiment bizarre qu'on veuille violer un marron. Oui. Ou est-ce que c'est un hasard qu'ils aient tous les quatre le même fantasme, ou est-ce qu'ils sont genre rencontrés sur un groupe Facebook de fans de Varan et tout? Genre d'ailleurs, gros malaise quand ils sont trompés qu'ils ont posté leur annonce sur le groupe des fans de Vartan. Deuxième question, pas très correcte, pas du tout correcte même, que je me suis posée, c'est pourquoi un Varan? Oui. C'est moche. Question déjà très problématique. Mais ce qui m'a fait me demander, est-ce que les gens qui s'adonnent à ce genre de pratique, ils ont un classement des animaux sexy? Est-ce qu'ils ont genre un... Est-ce que pour eux, le calendrier 30 millions d'amis, c'est l'équivalent du calendrier Pirelli? Genre... Et puis, vu que... C'est le pire. Est-ce que, vu que le varan, c'est un animal en voie d'extinction, ils ont ressenti une sorte de fierté supplémentaire? Genre, ce vieil égo masculin qui fait que les mecs sont un peu fiers quand ils couchent avec une meuf vierge, on sait pas. Voilà. Là, Lisa m'a dit, je pense que tu vas trop loin, mais mieux vaut aller loin dans une chronique que dans un varan. Et puis...
Et puis... C'est vrai.
Et puis, pour de vrai, est-ce que... C'est vrai. Est-ce que maintenant, on va devoir faire... Est-ce que maintenant, on va devoir faire évoluer la question qu'on se pose en début de relation? Genre, oui, t'as vu combien de partenaires sexuels? T'as couché avec combien de filles? Alors, c'est deux questions très différentes. Et puis, deux dernières infos qui m'ont buté dans cet article, c'est que déjà, les mecs, ils l'ont violé, puis ils l'ont tué, puis ils l'ont cuit, puis ils l'ont mangé. Ça veut dire qu'ils se sont dit, on va le cuire, sinon c'est dégueu. Déjà ça, ok, ça amuse plus moi que les autres. Et puis aussi, l'article, il dit, les hommes semblent l'avoir fait uniquement pour le plaisir, aucune intention religieuse ou un quelconque lien avec la magie noire. Peut-être qu'ils auraient dû dire que si. Parce que dire, on m'a jeté un sort, c'est moins bizarre. C'est bizarre, mais quand même moins que de mettre son pénis dans un reptile. Et donc franchement, ils ont mal choisi leur moment, pour être honnête, parce qu'il ne faut pas oublier que ces gars, ils ont une famille. Ils vont devoir rendre des comptes. Ça va être chelou l'ambiance à Noël. Hein. Ouais. Genre, ah, je vais fourrer la dinde. Assieds-toi. Et puis, est-ce que ces quatre gars, quand ils vont recoucher avec un humain, ils vont avoir moins de plaisir? Ils vont être genre, oh, ça manque d'écailles. Pas. Donc, okay. Le monde part en vrille. C'est complètement zinzin. Et il y a des gens qui vont être choqués par cette chronique et par cette histoire. Mais il y a aussi énormément de gens qui auront vu passer cette info et qui se seront dit « Oh, comme un lundi !» Et ça, c'est pire. Et puis, de toute façon, si vous vous demandez pourquoi j'ai écrit une chronique sur un sujet aussi glauque, c'est pas de ma faute, on m'a jeté un sort.
Merci, salut.
Valérie, partout, en tournée, en France, en Belgique, solo avec des reptiles, et au Trianon à Paris le 27 janvier.
Non, la vraie question, c'est ce qu'il faut la laisser en liberté, Fanny Ruet, c'est surtout ça, après.
Sous surveillance, bracelet.
Toutes ces horreurs. La musique.
C'est le plan de fin.
J'adore ce titre.
Je l'adore.
Merde, pardon. La musique existait avant le court-métrage. Et c'est ce qui a eu l'idée du titre est venue de là.
Cette musique-là, oui, existait avant le début du court-métrage. Il y a toute une autre partie.
Et The New Black, c'est ça? C'est dans la série?
Pardon?
Orange et le nouveau noir.
Pardon me? I'm sorry.
Out of the
blue.
C'est ça, non?
Non, je l'ai cherché parce que j'avais ce titre de court-métrage et que j'avais envie d'un truc
qui s'appelait
rock.
D'accord.
J'avais envie de... Et j'ai cherché.
Je crois que ce titre est dans la BO de Orange is the New Black.
Eh ben, vous voyez, j'ai des bons.
Ouais. Oui, enfin, il y a des titres qui sont dans plein de BO différentes. Vous, Raphaël, vous êtes plus...
Un peu tranquille.
Vous êtes plus musique d'ascenseur.
Ouais, c'est vrai. Ouais, une espèce de tcha-tcha-tcha comme ça, sur des ruines.
C'est une musique de parachutage, ça.
C'est pas mal, hein.
Ouais,
j'aime bien
côté,
ce petit... C'est moi qui sifflote.
Ah bon,
ouais, je suis assez contente, ça.
Il y a un petit côté Jean-Yann, ouais. Film un peu français comme ça, La Bonne Franquette. Un peu...
Coup de tête.
Ouais, coup de tête.
Je pensais à coup de tête.
Sous-tête.
Ouais.
C'est vous qui...
C'est une musique d'Antoine Salaire.
Ben oui.
Voilà.
Le fameux.
Ouais, le fameux. Et oui, c'est moi qui siffle. Ça, c'est ma plus grande réussite dans la vie. Le sifflotage.
C'est le truc que vous faites le mieux.
Merci. Je ne sais pas.
Je demande.
Entre autres.
Anne Bouvier, comédienne et metteur en scène, présidente du conseil d'administration de l'ADEMI, sera notre invitée dans quelques instants pour parler donc de cette ADEMI, du statut d'artiste en France. La bande originale, pas uniquement des courts-métrages de Déborah François et de Raphaël Persona, mais aussi la bande originale de la vie de Déborah François, par exemple.
Carrément.
On commence dans les années 90.
Roxette,
qui était un groupe rock avec une voix féminine. Bon, à ce titre-là, c'est plutôt le slow du moment.
Ouais.
C'est vrai qu'ils envoyaient. Qu'est-ce que ça vous donne comme image en tête d'entendre Roxette?
Surtout, pour le coup, c'est surtout la bande originale de Pretty Woman.
C'est vrai.
Évidemment. Donc ça a marqué. Je ne sais pas combien de fois j'ai écouté cette chanson.
En pleurant.
En pleurant avant d'avoir appris l'anglais en faisant du chewing gum. In my baby
love. Et dans ces années-là, Déborah, on vous retrouve enfant à Liège et on vous retrouve sur scène aussi dans Blanche-Neige.
Oui, mon premier rôle, c'est
premier
vrai.
Rôle.
Mon premier rôle, Blanche-Neige.
Premier rôle.
Mais à quel âge?
Ouais. Mais à 5 ans.
Ouais.
À 5 ans. Mais ça a été vraiment un coup de cœur.
C'était dans quel cadre?
C'était incroyable. Je me suis dit, c'est dingue d'être sur une scène. J'ai trop envie de faire ça toute ma vie, en fait.
C'était à l'école. Spectacle de fin d'année.
Ouais, truc de fin d'année. J'ai encore les photos. J'ai trop mignonne.
Mais Blanche-Neige, mouton noir, on n'aurait pas fait le tour, là.
Et c'est plutôt étonnant que vous soyez hyper heureuse sur scène parce que vous racontez à quel point, enfant, vous étiez très timide au point de ne pas vouloir adresser la parole aux adultes, de ne pas demander de glace, d'être vraiment. Un peu, vous dites une enfant un peu lunaire, un peu seule, un peu dans sa tête.
Ouais, très introvertie, mais je suis encore comme ça aujourd'hui. Hein. Je suis quelqu'un de très sauvage.
Vous demandez pas
j'ai pas beaucoup d'amis, je sors pas beaucoup.
Mais elle fait des courts-métrages avec des gens qui meurent.
C'est une empoisonneuse.
Et donc du coup, je fais des films bizarres. Ouais. Voilà, c'est pour ça.
Okay.
Mais je crois que les gens qui font des films étranges sont un peu étranges.
Mmh. Raphaël Persona, dans ces années 90, vous écoutiez MC Solar.
Le vent souffle, crasse en Arizona. Un état d'Amérique dans lequel Arizona. Cowboy dingue, du bang bang, du flingue. De l'arme, du cheval et de quoi faire la bringue. Poursuivi par Smith et Wesson.
C'est BO à lui tout seul. C'est un film, c'était même carrément.
Oui, c'était un film. Le clip était un film. C'était Gondry, je crois.
Ouais.
Et moi, je découvre ça à l'époque et je trouve ça complètement dingue.
Et Raphaël, vous, dans ces années-là, vous êtes Cyrano?
Ouais, au moins.
C'est votre premier.
C'est le premier texte que j'ai joué sur une scène. Avec beaucoup de.
À quel âge?
Bah, 13 ans.
D'accord.
Ouais, c'est énorme. Plus, quoi. Ouais, c'est énorme de s'attaquer. C'est la tirade du nez.
C'était la tirade du nez parce que j'avais vu le Cyrano avec Depardieu.
Ouais.
Avec,
fantastique.
Oh, et c'était fantastique, voilà. Mmh. Ouais.
Donc sur scène, alors on a déjà raconté maintes fois l'histoire de. Je vais au cours de théâtre pour suivre les filles. Voilà.
Une fille.
Oui, on une fille.
Ça fait un peu harcèlement,
c'est. Oui, c'est ça. Je poursuis des filles et c'est celle qui voudra, qui sera la mienne. Non, je plaisante. C'est une méthode
bonne
à l'époque.
Technique.
C'est une bonne
ah, bien sûr.
Moi, je trouve que
la pêche à la glace, évidemment.
Elle sait de quoi elle parle. Hein, mais
on est d'accord, ça peut pas venir de n'importe où, cette phrase.
J'ai pratiqué.
Voilà.
Bien sûr. Ah, le premier qui. Non, je plaisante. Oh, ça. Donc, Cyrano.
Ça fait de beaux enfants.
Ouais, il est vrai. Il est vrai. Très beaux enfants. Cyrano de Bergerac, donc je sais pas, aidez-moi, Raphaël. On va s'en sortir ensemble.
Bah, Cyrano de Bergerac,
voilà. Pas.
Mais pourquoi avoir choisi ce texte?
Mais parce que je l'avais vu, que je trouvais ça bien.
Oui, mais il y a plein de textes dans Cyrano de Bergerac. La tirade du nez, qu'est-ce que c'est?
C'est le plus éclatant, quoi. Ouais, oui, c'est le tube de Cyrano.
Ouais. Ouais, quel sentiment physique vous avez ressenti en étant sur scène, Déborah? Est-ce que c'est une espèce d'angoisse et le plaisir de faire rire ou d'émouvoir la salle? Même question pour vous, Raphaël. Est-ce que physiquement, on ressent quelque chose quand on est sur scène?
Moi, pour moi, sur scène, c'est déjà très différent d'être sur un tournage.
Ouais.
Sur un tournage, j'essaie d'oublier complètement qu'il y a des gens autour de moi, en fait, et que je suis vraiment complètement dans la scène, dans le perso. Et sur une scène, c'est vraiment, c'est assez incroyable. J'ai l'impression qu'on respire plus, que le cœur bat plus, que c'est un espèce de moment complètement suspendu.
On avait ça.
Non, mais c'est vraiment, il y a un truc qui est extraordinaire.
C'est jouissif ou paralysant, c'est-à-dire que.
C'est les deux. C'est les deux, je peux pas vous dire parce que c'est tellement
de stress, quoi.
C'est tellement de stress et à la fois il y a une liberté totale parce que finalement les gens vous regardent et en même temps c'est pas vraiment vous. Il y a un truc complètement psychédélique qui se passe dans la tête, je trouve.
Et vous, Raphaël, sur scène, encore une fois?
Paradoxalement, moi, je me sens plus moi sur scène que dans la vie. Mmh. Pouf, alors là, c'est carrément des séances.
Et tous les deux, faut consulter.
De psy, voilà.
Oui, mais pas en même temps.
Non, moi, je me sens extrêmement bien sur une scène. Et il y a ce plaisir d'enfant que je retrouve que j'avais eu quand j'avais commencé.
2009-2010, Déborah François, vous écoutiez Pink.
Des meufs du rock.
Ouais, c'est ça, des meufs du rock. Bonne recette.
Et 2009, Déborah, c'est le César du meilleur espoir pour un film que vous avez évoqué tout à l'heure, Le premier jour du reste de ta vie, de Rémy Besançon. Au-delà du plaisir qu'on a à être sur scène, c'est important aussi que les autres vous témoignent aussi leur admiration pour vous dire, voilà, vous faites partie de l'équipe
du
maintenant.
Je l'ai vraiment pris comme ça. Hein. Je me sentais jusque là, alors que j'avais déjà commencé à travailler. Enfin, j'avais déjà fait pas mal de trucs, mais c'est vraiment le moment où je me dis tiens, peut-être j'ai une certaine légitimité.
Ouais. Ça change quoi? Ça change le tarif journalier quand on tourne ou ça change
le nombre de séances de psy? Ça change
le nombre de scénars.
Non, mais ça change le fait de faire partie d'un truc où on pensait pas forcément qu'on avait sa place. Moi, je suis une petite gamine de Liège.
J'entends.
Qui arrive
avoir un César, est-ce que l'agent va dire à partir de maintenant elle va vous coûter plus cher si vous l'engagez?
Énormément augmenter mes tarifs aussi.
Ça change.
Non, mais ça
me choquerait pas.
J'ai pas souvenir que ça a été parce que j'ai pas changé le type de cinéma que je faisais.
Oui.
Donc je pense que mes cachets auraient explosé si j'avais commencé à faire Avenger. Malheureusement, ça a pas été le cas.
Un message donc si Avenger 8
Marvel, Marvel, j'adore Marvel.
Très bien. Raphaël Persona, dans ces années, vous écoutiez Las Shadow Puppet.
Dans La Princesse de Montpensier, enfin, vous êtes le duc.
Merci beaucoup.
Alors, on va repréciser, vous incarniez à l'époque le duc d'Anjou dans le film ou dans La Princesse de Montpensier, au choix de Bertrand Tavernier. Forcément, on ne peut pas échapper à cette envie qu'on a de vous faire parler de Tavernier, du grand Tavernier.
Ça avait été un tournage extrêmement joyeux grâce à lui parce que c'était un jeune homme sur un plateau. Et je parlais tout à l'heure du fait qu'il est important d'enlever toutes les peurs sur un plateau et lui c'était le champion pour ça. Il décomplexait tout le monde. Moi je me souviens du premier jour. Enfin je l'ai sans doute déjà raconté, mais du premier jour pas du reste de ma vie, mais
sur
le tournage de La Princesse de Montpensier avec Bertrand qui arrive avec il a des chaussures montées sur ressort. Mais vraiment, c'était des chaussures d'alpinisme et il bondissait comme ça. Et voilà. Et en fait, je trouve que c'est l'image. C'est une image qui était importante pour moi.
Ouais. Pour vous, un réalisateur sur un tournage doit être l'autorité, doit être la référence. C'est la personne qui répond à toutes les questions. Il a toujours une réponse à toutes les questions qu'on lui pose, de toute façon, le réalisateur.
Peut-être, ou peut-être qu'il y a une part d'esbrouf. J'en sais rien. Ça, il faut
vous
leur
sur
demander.
Votre tournage. J'imagine que des acteurs vous demandent comment ils doivent jouer. Le technicien vous dit là, je passe comment la caméra. Enfin, c'est à vous qu'on pose des questions.
Oui, et c'est vrai qu'il faut être assez... ne pas plaire à l'autre dans ce genre de cas, c'est-à-dire vraiment s'écouter, se dire qu'est-ce qui est le mieux pour le film. Pas pour être sympathique avec un tel ou un tel, mais vraiment se dire en âme et conscience, quand je verrai le film, est-ce que cette décision qui a été prise me ressemble.
Déborah, vous aussi, vous avez ressenti ce côté « je suis celle qui doit avoir toutes les réponses ».
Oui, moi complètement, mais parce que je suis quelqu'un de très angoissé encore une fois dans la vie, donc j'avais envie d'avoir les réponses pour tout le monde et puis c'était important pour moi d'avoir des réponses pour eux pour pas les laisser seuls en fait, parce que j'ai vécu beaucoup de tournages différents et les seuls que j'ai pu mal vivre, c'est ceux où je me suis sentie peut-être un peu abandonnée dans une espèce de néant, de non-réponse, de...
Débrouille-toi.
Ouais, débrouille-toi. Pas la liberté totale, mais juste un débrouille-toi. Moi, je fais autre chose, quoi.
Anne Bouvier, vous vous rendez compte dans quel état vous les mettez en leur demandant de faire des courts-métrages ?
Ouais, je suis désolée.
Ah non, mais c'est bien, on est très contents.
Anne Bouvier, comédienne et metteur en scène, présidente du conseil d'administration de l'ADAMI. L'ADAMI, c'est fait pour gérer les droits d'auteur des artistes, c'est ça ?
Alors, ça se gère les droits voisins des droits d'auteur.
Artistes de cinéma comme musiciens d'ailleurs.
Absolument, c'est les artistes interprètes solistes et ça concerne aussi les cascadeurs, les DJ, les danseurs solistes, ça on le dit pas assez souvent. Et en fait, à partir du moment où le travail d'un artiste est diffusé, que ce soit dans une radio...
Et déposable.
C'est ça, non, ouais, c'est ça. Eh bien, il génère des droits.
D'accord.
Et ce sont ces droits que l'ADAMI gère, et une partie de ces droits retourne dans des créations, dans des opérations, dans des aides au spectacle vivant. Et dont les opérations comme Talent Cinéma.
Alors ça, c'est une idée qui date de combien de
d'années ? C'est la 28e édition. Donc, je vous laisse faire le calcul. On n'était pas nés, je crois. Hein.
Ouais, ça commence à remonter un petit peu. Merci pour la vanne. Et le principe étant, vous contactez des acteurs pour qu'ils fassent leur premier pas en direction en réalisation, et en leur demandant de faire jouer de jeunes comédiens. C'est ça, c'est vraiment un rôle de transmission.
Exactement. Ça fait 7 ans qu'on confie à des actrices et des acteurs confirmés la réalisation de ces films. Avant, c'était à des réals. Et la mission, c'est de mettre en avant des jeunes actrices et des jeunes acteurs. Comme ça, il y a...
Est-ce que, là, tout à l'heure, en tout cas pour Déborah François et Raphaël Persona, c'est vous qui les avez contactés en disant est-ce que vous accepteriez deux ? Mais est-ce que l'inverse peut se produire ? Prenons Pascal Arbillot, je ne sais pas si ça s'est passé comme ça pour elle, mais est-ce que une actrice ou un acteur peut vous appeler en disant j'aimerais réaliser un court-métrage, puis-je faire partie des talents d'amis ?
Oui, ça peut marcher aussi. D'accord. Dans ce sens-là. C'est que Pascal, on savait depuis un moment qu'elle avait très envie de réaliser, de passer à la réal par exemple.
La nuit des chasseurs, c'est ça.
Ouais, la nuit des chasseurs, absolument. Mais en général, on fait une espèce de brainstorming, les équipes de l'ADAMI, les producteurs. Là, cette année, c'est de l'autre côté du périph. Et on se dit, attends, je crois que Raphaël, il a peut-être envie de passer à la réal, Déborah. Et à ce moment-là, on les contacte.
Sans jamais pardon, on sait pour ceux que l'on a vus qu'ils sont dans l'excellence, mais vous n'êtes sûr de rien. Vous pouvez vous aussi vous retrouver avec quelque chose de totalement raté.
Ouais, c'est un pari, ça arrive. Hein, d'ailleurs, ils sont pas tous.
Et là pour cette édition, il y en a eu.
Ouais, à part un. Ouais.
Mais c'est pour ça que vous leur avez aussi associé des scénaristes, peut-être.
Oui. Ouais. Ça, c'est effectivement ce que disait Déborah tout à l'heure. C'est la grande nouveauté de cette édition, c'est que voilà, on a vraiment cette fois-ci engagé des scénaristes parce qu'on voyait que parfois ça pêchait un peu, parce que tout le monde ne sait pas tout faire. Et là, cette édition, elle est vraiment réussie aussi pour ça.
Et alors, quel éclairage donne Cannes à cette opération ? Est-ce que ça permet à de jeunes réalisateurs de devenir confirmés, voire de faire un long métrage ? Est-ce qu'il y a un marché ? Puisque c'est quand même le principe du festival du film, c'est de pouvoir signer des contrats, être diffusé ou racheté dans différents pays.
Alors, la chance de ces films, c'est qu'ils savent déjà qu'ils vont être diffusés sur France Télévisions.
Ouais. Et sur France.tv, dans Histoire courte sur France Télé.
Exactement. Et après, ils font toute la tournée des festivals, des grands festivals comme La Rochelle, Angoulême, Angers, Clermont-Ferrand. Donc pendant toute une année comme ça, les films voyagent, même aussi des festivals internationaux. Bien sûr, ils font tous la montée des marches, donc ça c'est quand même assez joyeux, c'est assez exceptionnel.
Il y a
pas de prix, non. Il y a la projection, et bien sûr, c'est l'occasion, surtout pour les jeunes talents, de rencontrer des professionnels et tout ça. Et c'est surtout pour eux qu'on fait ça.
En 28 éditions, il y a des noms qui sont sortis des talents ADAMI ?
Ouais, il y en a pas mal. Il y a eu Sylvie Testu, il y a eu Guillaume Gallienne, Alice Paul.
Pascal Arbillot, si je dis pas de bêtises.
Pascal Arbillot, elle a fait la première édition, que j'avais faite aussi avec elle d'ailleurs.
Donc elle était...
Ça c'est côté jeune actrice, jeune acteur qui
elle a
qui
été jeune talent ADAMI
pour l'une des premières éditions. Et à l'inverse, est-ce qu'il y a des courts-métrages qui sont devenus des longs ?
Non. C'était une bonne question, absolument. Il y en a qui sont vraiment passés à la réal après, mais non, il n'y en a pas de cours qui sont devenus des longs.
Et vous, Anne, vous en avez fait ?
Non.
Pourquoi ?
Non, conflit d'intérêt.
Pourquoi vous poussez les autres à le faire et pas vous ?
Humilité, vous voyez, tout pour les autres, c'est beau. Hein ?
Dans le partage, transmission,
tout ça, l'intérêt général.
Est-ce qu'il y a une exigence budgétaire aussi à respecter en disant, voilà, vous avez chacun exactement la même enveloppe, que ce soit un huis clos ou que ce soit un film d'action ?
Ouais, ouais.
En tout cas, il y a des contraintes.
Oui, il y a des contraintes. Malheureusement. Ils ont tous 3 jours de tournage, tout le monde a le même budget, même durée des films. On essaie d'être vraiment équitable, la même règle. règle pour tout le monde, absolument. Là, il y avait 3 talents par film, donc c'est assez l'idéal. Donc cette année, c'est 12 talents qui vont être mis en valeur et 4 films réalisés.
Et pour ce qui est de la technique, c'est-à-dire du choix de la caméra, du prix, du lieu de tournage, là aussi vous intervenez ou ils ont carte blanche ?
Oui, on intervient. Là, cette année, on travaille avec Pictanovo, donc région Hauts-de-France, qui coproduit aussi les films. Il y a le CNC, il y a la Belgique aussi, qui nous aide. Et ouais, c'est même tarif pour tout le monde.
Même tarif pour tout le monde. Sur France.tv, donc c'est à voir sur le site de France Télévisions. Ça sera présenté à Cannes la semaine prochaine.
Absolument, le 24 mai pour la première fois.
Et puis dans Histoire courte sur France 2. Merci Anne d'être venue à ce micro et bravo pour cette initiative. Le héros du jour est de retour.
Absolument, il est là. Alors, chers amis, mon héros a failli être une marque de fringues, la marque Balenciaga. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour le coup de génie que son département de communication a réalisé. Pour lancer sa dernière création, une paire de chaussures nommée Paris, la marque a mis en ligne des chaussures totalement défoncées, trouées, sales, dégueulasses, affichées au prix de 1 700 €. Finalement, c'était juste un coup de com'. Balenciaga ne va pas vendre ses modèles ultra crades à 1 700 €. Non, Balenciaga va vendre son nouveau modèle 1 450 €. Ah, le vrai modèle qui sera moins crade. Ah non, mais là, à 1 450 €, des chaussures juste un peu crades, ça va, c'est presque une bonne affaire. Eh ben, il paraît que quand même, là, les précommandes explosent. Je pense que Balenciaga et son département de com' sont des génies. Comme dirait Raphaël Persona, on est dans la dictature de l'émotion. Une promotion avec un modèle atroce, on met en vente un modèle moins atroce, et bim, ça marche. Out of the blue, on achète. C'est comme si Emmanuel Macron déclarait « J'ai choisi mon premier ministre ». C'est Éric Zemmour. Tout le monde fait « Ah, au secours, il est malade !» Et au final, il dit « Non, je déconne, je prends Balkany. » Et là, tout le monde fait « Putain, on a eu chaud !»« Oh là là, Balkany, c'est mieux que Zemmour !» Coup de génie pour Balenciaga. Mais pour autant, ce n'est pas mon héros du jour.
Bon,
non, car aujourd'hui, je dois faire preuve de patriotisme, Nagui. Figurez-vous qu'une fois encore, les Anglais nous attaquent. Tout récemment, plusieurs médias roast beef, dont le Times, évoquent la fin de l'hégémonie française. Ces salauds déclarent qu'ils sont supérieurs aux Français en matière de fromage!
Non, c'est pas possible.
Non. Pas alors, d'habitude, je pas suis touche. Plutôt mesuré. Mais là, c'est la guerre. Parfaitement, c'est la guerre. Il proclame être riche de plus de 1000 variétés de fromages artisanaux et que nous, avec nos 550 espèces, nous ne sommes pas à la hauteur. Bande de fumier. Il suffit pas de fabriquer 1000 fromages. Faut-il encore qu'ils soient bons, vos frometons? Le faire savoir ne remplacera jamais le savoir-faire. Nous, nos 550 fromages sont tous des délices, avec chacun leur particularité, leur spécificité. Chaque fromage français, Morgane, est une aventure gustative. Une odyssée de saveurs. Alors oui, 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 Raphaël, il y en a qui piquent les yeux. Oui, Déborah, il y en a qui brûlent la langue. Mais c'est pour ça qu'on a le pinard. C'est pour faire passer ou pour dissoudre quand ça coince. Cette guerre, vous ne la remporterez pas, messieurs les Anglais. C'est une croisade qui, sous le patronage de Saint-Nectaire, Saint-Morin et Saint-Marcelin, nous gagnerons. Vous l'aurez compris, chers amis, mon héros du jour est donc le savoir-faire fromager français. Un savoir-faire honteusement attaqué par des bouffeurs de cheddar. Vive la France !
Merci ! Bonjour Tanguy Bassereau.
Bonjour.
De quoi parles-tu aujourd'hui ?
Je vais parler culture, puisque figurez-vous que les Camping Paradis, 76 campings quand même, lancent leur tournée estivale. Casting fou, Lam, Sloan, Alan Théo et Chris des G-Squad.
On en parle après les infos de midi. C'est la bande originale avec la Académie des Filles, Morgane Gavignan, Fanny Ruet, Tanguy Pastureau, Daniel Morin et nos invités Déborah François et Raphaël Persona.
Ah oui.
Nous parlons de ces courts-métrages présentés dans le cadre de l'ADEMI. L'un s'appelle Mouton Noir, réalisé par Déborah François. L'assassinat des parents font que 3 enfants se retrouvent chacun dans un rôle précis. L'une est internée, enfermée, considérée pour folle et dangereuse surtout. Sa sœur lui rend régulièrement visite. On ne sait rien du frère qui finit par réapparaître. Point de suspension, je m'arrête là.
Le frère finit par réapparaître dans leur vie et va un petit peu casser cet équilibre qu'elles ont créé entre elles.
C'est la notion de secret qui vous intéressait ou la fratrie dans votre travail, l'angle que vous vouliez mettre en avant ?
Non, l'angle que je voulais mettre en avant, oui, c'est beaucoup plus le secret, effectivement, l'intrigue. Et ce qui était très important pour moi aussi, c'était que j'avais envie de faire un film où il n'y a pas de héros. J'aime pas les films manichéens,
donc en collégial,
blanc et noir. Donc il fallait à la fois leur donner en plus un rôle équivalent à chacun. Pour
à Ludmila Makovsky pour ce qui est de celle qui est entre guillemets en liberté, Vanny Elleman pour celle qui est internée, et Jérémy Gillet qui réapparaît.
Qui est l'ange de la revanche, voilà.
L'ange de la revanche. J'adore. Vous l'avez convaincu comme ça en disant bonjour, je t'appelle, je voudrais que tu fasses l'ange.
Oui, bah parce que pour moi, Jérémy, c'est un peu, dès que je l'ai vu arriver en casting, c'est un peu un petit ange tombé du ciel. Enfin, il est incroyable. Il a un physique comme ça qui est très angélique. Et à la fois, il a un jeu qui est vachement puissant et qui peut. C'était ce qui m'intéressait, en fait, que justement, il y ait deux couches qui est leur visage à eux, chacun qui est assez lisse et angélique et jeune, et ce qu'il y a derrière. Qui est pourri.
De votre côté, Raphaël Persona, vous avez réalisé donc La Reine, ce court-métrage avec Camille Claris dans le rôle de la jeune députée en campagne sur le terrain, Ahmed Amadi Chassin dans le rôle du dire de com ou du directeur de cabinet, en tout cas qui la conseille, et Logan Antuo Fermo qui est le manifestant par lequel l'action va se déclencher. Ça s'appelle La Reine, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On est dans les jeux du cirque, on est aussi dans dans ce côté se jeter dans l'arène en risquant d'y laisser sa vie en matière de politique, mais avec un raisonnement très branché sur l'actualité. Vous avez voulu être dans l'instant présent, dans le jaillissement, et pas écrire un court-métrage intemporel auquel vous aviez pensé des années avant.
En fait, je me suis dit, comme ces courts-métrages allaient être visionnés à Cannes au moment des législatives, je me suis dit ça serait marrant entre plein de guillemets, que d'un coup les spectateurs se disent tiens, mais il s'est glissé un documentaire au milieu ou un reportage de BFM qui est un petit doute, et ça m'amusait. Et puis je dois dire que moi je suis assez spectateur, c'est
déjà
là
des
encore
des
entre plein
infos.
De guillemets Daniel Morin, je vous avoue,
des chaînes infos,
des chaînes infos, ouais. et de la représentation des politiques, de ça, dans le personnage que joue Camille Claris, il y avait plein d'influences, il y avait du Prune Poisson, du Valérie Pécresse, il y avait plein de choses dans l'habillement aussi, de essayer de trouver, parce que j'ai remarqué souvent que les
oui, il y a des codes.
Il y a des codes vestimentaires très très précis, donc avec la costumière, on a vraiment cherché à s'amuser avec ça. Oui, et puis se dire aussi que c'était une...
Il y a une jeune femme politique, je pense que vous avez dû voir l'image, qui s'est retrouvée dans un journal de La 3, on lui pose une question sur le service public, et elle ne comprend pas la question, qui est pourtant d'une simplicité...
Il y a peu de temps, là.
Très peu de temps, et qui dit, est-ce que vous pouvez couper cette partie, alors qu'elle est en direct sur le plateau.
Vu, ça.
Mais la
c'est
tristesse,
fabuleux.
La tristitude.
Il y a des codes aussi sur le maquillage.
Sur le maquillage, ouais. Oui, absolument. Maquillage, c'est vrai aussi. Que le directeur de campagne, très très vite, quand il voit la candidature, il a de mettre un peu de rouge à lèvres, il lui dit non, surtout pas, mais pas de rouge à lèvres, ça met trop de distance. Ouais. Essaye de penser à Chirac qui touchait le cul des vaches et des gens, et voilà, lui il avait cette approche plus
paternelle,
plus physique,
ouais, plus enrobante, plus,
exactement,
ouais, voilà. Enveloppante. Ouais.
La Reine et Mouton Noir, deux courts-métrages parmi tous ceux qui seront présentés à Cannes, et puis clin d'œil évidemment à Pascale Arbillot qui elle aussi a réalisé La Nuit des Chasseurs, avec cette histoire d'enfants perdus dans la forêt qui vont tomber sur une personne qui veut monter un piège contre des chasseurs et qui a son sanglier adoptif qui est avec lui. Tu as les acteurs ?
Non, j'ai Aïssa.
Tu as le nom
Maïga
du sanglier ?
Aussi.
Ah oui, pardon.
Voilà,
je croyais que tu avais les acteurs.
Non, non, j'ai pas les noms.
Et Aïssa Maïga également qui fait partie donc de ces quatre talents à d'amis présents à Cannes à partir de la semaine prochaine. Voici un autre talent avec nous.
Samedi, je vais jouer au théâtre Sébastopol de Lille, une grande et splendide salle pleine de gens ivres. Et par curiosité, je suis allé voir sur le site le reste de la programmation en me disant que si les Baudins s'y étaient passés récemment, il faudra libérer le lieu de l'emprise de Satan et mettre un coup de sang bon pour masquer l'odeur des vaches. Bon. Donc je vous le dis, alors la programmation super. Le 23 mai là-bas, il y aura Zaz, la petite fiancée des fougères. Le 8 juin, Christophe André, un monsieur qui aborde tout par le biais du positif. Je pense que si on lui dit qu'il va crever, il répond oui, mais ce quart d'heure qui me reste, pourquoi ne pas le passer à déguster un thé indien entouré d'amis? Le 6 juin à Sébastopol, il y a Dita Vantis, la pin-up sexy, hein, qui se fout des pompons sur les tétons. Par contre, c'est cher, 108 euros le carré or, puisque les prix sont fixés en fonction de l'état du corps de chacun. Je suis à 9 euros. François Bayrou, pour son spectacle Il est beau mon centre, est à 80 centimes. Attention, il y a des places à 39 euros, quand même, moins cher pour Dita Vantis, mais elles sont à visibilité réduite. En gros, devant vous, il y a un poteau et vous ne voyez qu'un pompon. Donc, autant essayer de choper le Mickey à la fête foraine. Hein, donc, il est possible que samedi, je décide de rester enfermé dans le théâtre, de me déguiser en pompon et d'attendre, hein, d'attendre où j'en suis. Mais oui, d'attendre Dita Vantis. Parce que c'est, donc, si le 8 juin, vous me voyez en train de faire des cercles autour de son téton droit en hurlant, j'ai enfin découvert le sens de la vie. Donc, ne vous étonnez pas. Et hier, au Sébastopol, il y avait Jeanne Masse. Or, Jeanne Masse, c'était mon idole d'enfance. Ses cheveux noirs, ses yeux noirs, ses fringues noires. À 11 ans et demi, j'étais en dépression. Ensuite, j'ai aimé les Cures, puis j'ai regardé Ardisson. J'ai découvert l'existence des couleurs qu'à l'arrivée de Roselyne Bachelot. Ah, Jeanne Masse, cœur en stéréo et son rouge et noir, ça grouvait plus que Stendhal. Dans les Boom Camp DJ, le grand frère de Seb mettait ça dans le garage des darons, mais c'était la folie. Les filles imitaient les chorégraphies de Jeanne Masse, très saccadées, hein. Nathalie, une copine, un soir s'est mise à bouger dans tous les sens, elle a fini par terre, à baver. Bon, là, c'était une crise d'épilepsie, hein. Mais je me souviens qu'à son enterrement, on était fiers de dire qu'elle était morte sur du Jeanne Masse, qui, elle, alors, n'est pas morte, hein. C'est juste l'air qu'elle se donne. Alors, elle a 64 ans, mais elle en fait 22, grâce au maquillage qu'elle se tartine autour des yeux, parce qu'on voit pas ses cernes. C'est la magie du maquillage, hein. Le chanteur du groupe Kiss, vous le passez à la lingette, physiquement, c'est Edouard Balladur, hein. Un Balladur en fut de cuir qui ferait le con avec sa langue. Mais enfin, si vous diluez de la MDMA dans sa camomille, Balladur aussi pourrait être comme ça. Et en fait, je réalise que j'ai réussi ma vie, quoi. Je fais les mêmes salles que Jeanne Masse. Mais si on m'avait dit ça en 87, mais c'est dingue. Et je rêve d'avoir la même carrière, de continuer la scène à 64 piges. J'appellerais ça le boomer tour. Sur scène, je sortirais d'une prostate géante. Derrière moi, il y aura une chorale de sénateurs en train de se vider. Tout ça grâce à l'amour du public. Parce que Jeanne Masse, pourquoi continue-t-elle? Non pas parce qu'elle en veut à la musique, mais parce que ses fans sont là. Et c'est beau quand les médias sont détournés de vous, que même Max sur Nostalgie ne passe pas vos vieux titres dans le mini-mix de Max, de savoir que le public reste. Même Anne Hidalgo, je suis sûr qu'elle a 2-3 fans qui continuent à la suivre. Alors oui, à la suivre physiquement. Oui, en se masturbant. Mais tout le monde n'a pas les mots pour parvenir à exprimer son amour. Ah bah au Cap d'Agde, des gens qui ont fait prépa littéraire, il n'y en a pas des tonnes, hein. Non, le public reste. Tenez un exemple. La tournée Le Paradis des Stars qui va avoir lieu cet été dans les campings paradis. Le camping, tout le monde voit, hein, c'est ce no man's land du coup, où les gens portent des tongs et se tapent 600 mètres avec la gratounette dans le short pour rejoindre le bloc vaisselle où ils lavent des verres en plastique avec écrit « Ceux qui cherchent midi à 14h, rate-leur de l'apéro ». Et ben maintenant, il y a les campings paradis. C'est une franchise, tous conçus comme celui de la série avec Laurent Ournac. C'est plus sympa comme lieu de vacances que d'aller se foutre dans le décor calqué sur le film Shining. Hein, bon, voilà. Hein, les campings paradis, mais c'est un succès énorme. Déjà, 700 000 réservations pour cet été. 76 campings. Et ils lancent donc la tournée Paradis des Stars, la tournée où le mot star a le même sens que dans Danse avec les Stars, c'est-à-dire qu'on n'en connaît pas un. Mais là-dedans, il y aura d'anciennes stars. Alors, je vous donne des exemples. Le 8 juillet, au camping Paradis de Barcarès, il y aura Indra. Voilà, une chanteuse suédoise qui s'est produite un jour en première partie de Prince. Voilà, Prince avait d'ailleurs déclaré, je cite, « Qu'est-ce que c'est que cette merde ?» Il y a aussi L'Âme, la star aux 4 millions de disques vendus, dont 3,9 millions sont actuellement en vide-grenier. Il y a Ahmed Mouissi de Powo, Sloan de Peter et Sloan. Pas de nouvelles de Peter, il doit être sur la tournée Center Park. Zouk Machine, mais juste la chanteuse. Bref, c'est le club des éclopés. De chaque groupe, il n'y a plus qu'un membre. Hein, on a l'impression qu'on vient de traverser une invasion de zombies, que la moitié du top 50 de 1989 s'est fait mordre et est resté sur le carreau. Alors attention pour les fans de Rudy, des Poetic Lovers, il n'y a qu'une date, le 3 août au Camping Paradis de Bassemberg en Alsace. Enfin, Clara Morgan, hein, la dame dont personne ne se vante dans Le Masque et la Plume d'avoir vu toute la filmographie, fera le 29 juillet un show coquin au Camping Paradis de Barcarès. Encore Barcarès, décidément ce camping c'est The Place to be. Sinon, à Lille hier, eh ben, il y avait Jeanne Masse. Et samedi, il y aura moi. Et peut-être que je serai toujours là en 2045 dans un camping grâce au public. Merci.
Merci, Tony Bosquet. Retour donc sur les talents Adami, ça sera à partir de la semaine prochaine, mais c'est déjà visible sur le site internet de France Télé, France.tv. Talents Adami Cinéma, avec ses quatre actrices, acteurs, Pascal Arbillot, Déborah François, Raphaël Persona et Aïssa Maïga, qui, j'aurais pu commencer d'ailleurs par Aïssa Maïga, Pascal Arbillot, pour finir par nos deux invités. En tout cas, tous les quatre, vous présentez vos films. Il y a une montée des marches, les quatre courts-métrages sont présentés en une soirée. Comment ça va se passer, vous le savez déjà?
On le sait déjà. Alors, oui, lundi, mais moi non. Montée des marches, lendemain, projection à 15h. Voilà.
Des quatre courts-métrages.
Des quatre courts-métrages
dans, ouais, c'est dans la même salle, la même soirée.
Prévoyez une petite heure.
D'accord. Oui, oui, très bien. Oui, c'est ça. Oui, c'est 10-12.
On a à peu près 15 minutes chacun.
Parfait. Ouais. Et puis ensuite, ils partiront, comme nous a dit Anne Bouvier, dans différents festivals.
Ils vont voyager.
Ouais. Qu'est-ce que vous en attendez, Déborah François, de cette présentation?
J'ai à la fois hâte et peur, mais non, ce que j'attends vraiment, c'est mon rêve, ce serait que les gens me disent qu'est-ce qu'ils sont bien tes comédiens. Mmh. Voilà.
Vraiment. Ça, on peut vous le dire tout de suite, hein. Ils sont bien les comédiens, et puis surtout votre réalisation est mais à tous les deux. Ouais. Sincèrement, c'est une réussite pour une première sans jamais avoir essuyé ce genre de tentative, voire d'échec, parce qu'on apprend de ces échecs. En l'occurrence, c'est une réussite. On n'a pas du tout le sentiment que c'est une première, au contraire. Donc bravo à tous les deux pour ça. D'autres événements culturels, Leïla.
La sortie d'un blockbuster américain appelé Émancipation vient d'être repoussée d'au moins un an. D'après vous, pourquoi?
Parce qu'il y a une affaire sexuelle dessus, d'abus sexuel.
C'est pas une affaire sexuelle. Il y a une affaire. Il y a une affaire et Raphaël serait peut-être autour de cette table plus.
Ah, la drogue.
Comment il a direct, il a jailli comme ça.
Le plus quoi?
Et donc Raphaël, autour de cette table, devrait être le plus à même de trouver la réponse à cette question.
Mais c'est politique.
C'est politique. Il y a une affaire. Elle n'est pas politique, mais.
C'est une violence, une gifle.
Pardon. C'est très bizarre.
Une gifle.
Et donc,
c'est Will Smith.
Absolument. Le héros, c'est Will Smith.
Pourquoi?
Bravo.
Alors, parce que la gifle
dans l'arène,
dans votre court-métrage,
ne le dévoilait pas.
Oh ben voilà. C'était
que dans la 9e minute.
Oui, c'est vrai.
Non mais il en fait 10. Oui, mais le film en fait 10, donc bon du coup
c'est vrai.
Bon, le héros du film de du blockbuster Émancipation, c'est Will Smith, la plateforme Apple TV qui doit
attends
le diffuser.
Attends, que Chris Rock cicatrise.
Exactement, pas cicatriser, mais elle a préféré repousser la sortie en se disant voilà, ça fait une mauvaise publicité, on attend un peu que ça soit oublié.
Enfin, c'est Chris Rock qui a augmenté carrément ses tarifs. Ça a été un carton pour lui.
Chris Rock qui est demain à Paris au théâtre Apollo. Je vous donne l'info. Voilà,
non, mais on en revient à ce que vous disiez tout à l'heure
sur la victimisation. Ah bah oui, c'est pour les Français.
Raphaël Persona, la victimisation et la com. Là, en l'occurrence, il reçoit une gifle, Chris Rock. Il doit faire mal d'ailleurs. Et il augmente les prix de ses tickets.
Non mais je ne sais pas comment réagir.
C'est ce que vous avez dit.
Oui,
c'est monté jusqu'à
$400
la place quand même pour aller voir Chris.
$400
après la gifle.
Qui est à répondre à ça?
Je ne sais pas. Je ne suis responsable de rien.
C'est ce que vous avez
embêté.
Vous avez dit tout à l'heure la victimisation.
Oui, mais j'ai pas l'impression que lui revienne énormément sur l'événement quand même, Chris Rock. Il en a à peine parlé. Hein.
Peu importe, son agent en tout cas a fait monter les prix.
Ah oui, son agent peut-être. Oui, il y a des gens qui vont. Oui.
Et il y a des gens qui ont pris le fait et cause pour Chris Rock à tel point que ça.
Et il se promène en se tenant la joue quand même.
Oui, tout ça pour dire finalement dans votre métier, la descente elle est quand même plus rapide que l'ascension quand il y a un petit couac. À quoi vous faites particulièrement attention? Qu'est-ce qui vous effraie justement? Parce que vous avez mis des années à construire votre parcours, votre film. Le rapport avec le public, les professionnels. Aujourd'hui, quel est le plus gros démon qui pourrait éventuellement venir ternir une carrière? On a des grands noms de cinéma français qui ont eu des petits pépins dans la presse sur des affaires de drogue, notamment. Après, il y a des affaires beaucoup plus graves de violence. On en parle souvent. Qu'est-ce que vous redoutez le plus en bad buzz? C'est quoi, un extrait d'interview mal monté,
une phrase? Peut-être trop parler à tort et à travers, parce que je peux être comme ça, tout peut sortir tout d'un coup, sans filtre. Et,
on a bien compris,
c'est vrai
qu'effectivement, depuis 1h30 là.
Ça peut sortir out of the blue, donc.
Non mais c'est vrai qu'on a peur de s'exprimer, là typiquement sur Will Smith, la bave, tout ça, on a peur de s'exprimer. Et en même temps, c'est compliqué, il faut pas non plus avoir une espèce de discours trop polissé. Mais c'est compliqué, sincèrement. L'exercice est très compliqué. Là, je passe un mauvais moment.
Alors, une autre question.
Mais par exemple, les réseaux sociaux, vous faites attention à ce que vous mettez comme ou retweetez comme photo, comme image, comme déclaration?
Non, franchement, non.
Déborah
un
non
peu,
plus
bah oui, un peu. Enfin, un peu en me disant, voilà, c'est un compte qui est public, donc il y a des choses qui doivent rester privées.
Cette notion de il faut plaire à tout le monde, ou en tout cas ne pas choquer.
Certains, ouais. Mais il faut s'en détacher quand même.
D'accord.
J'ai l'impression.
Autre question, quelle est la particularité du film d'animation français Pluche?
Peluche.
Sorte de peluche-pluche, en fait. C'est un petit jeu de mots.
C'est que des oursons.
C'est une histoire. Ah oui, alors c'est en effet, il y a des oursons, mais c'est pas la réponse
c'est
que j'attendais.
C'est l'histoire des pluches de poussière qui traînent sous le lit.
Non, c'est pas ça. C'est l'histoire vraiment d'un petit ours qui lutte avec une communauté écologiste contre le dérèglement environnemental. C'est le pitch.
C'est la voix de quelqu'un ?
Non, c'est pas. C'est lié à son financement.
Canal participatif.
Participatif.
Canal
Pluche.
Je suis content de l'avoir.
Ça mérite le trompette.
Ah, elle est franchement, pas je me cherche nul.
Canal Pluche.
C'est pas le truc financé par des.
Est-ce que vous le prenez comme chroniqueur ?
Ah, ça me fait plaisir.
Est-ce qu'on peut éviter d'encourager Raphaël Persona ? Parce que.
Si on arrêtait l'émission maintenant.
Mais je l'ai sorti sans filtre.
Voilà, justement là j'aurais dû me méfier.
C'est bon,
ça s'appelle une fin de carrière.
Ouais, c'est ça,
et voilà, on avait dit qu'il ne faut pas trop parler. Et voilà, c'est comme ça. C'est lié au financement, Fanny.
Oui, c'est pas financé par les NFT.
Bravo.
NFT.
Financé par des NFT, par des crypto-monnaies aussi. En gros, il faudra débourser à peu près 1 250 € pour le NFT de l'ourson en question. C'est donc. Oui, c'est comme ça. Film d'animation avec des voix assez connues au générique. Il y aura Gérard Darmon, il y aura Kev Adams, Camille Lelouch, Maître Gims aussi pour prêter. Vous avez fait des petites réactions là, je ne dirais rien. On continue. Oh ben voilà. Tout ça pour vous poser une question sur les financements. Tous les deux, vous avez très très envie de réaliser. Et vous allez le faire, je n'en doute pas. C'est vrai que la question du financement, c'est encore un autre métier. Vous avez pu approcher éventuellement ces questions financières avec la réalisation là, des courts-métrages du Talent Adami. Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qu'il faut vraiment pour financer un film aujourd'hui ?
Déborah, vas-y, je t'en prie.
Il y a beaucoup de choses qui se financent malheureusement parce que c'est sur des noms d'acteurs et de réalisateurs. Et quand ça devient que ça, c'est hyper dommage parce qu'on finit plus par voir que les mêmes gens et ça, la culture se censure elle-même et fait un rond sur elle-même et se mord la queue.
D'où l'intérêt de ces courts-métrages, de découvrir de nouvelles têtes.
Voilà, l'intérêt de faire des.
Ça, c'est l'intérêt, mais comment on fait pour monter un film quand on n'a pas de nom, quand on est réalisateur, quand on n'a pas de grand nom?
Je dirais ça quand j'aurai fini d'écrire le long métrage et que j'essaierai, parce que je sais que c'est très très compliqué. Ouais. Enfin, moi, en ce moment, personnellement, je suis sur 6 projets et je ne sais pas s'ils vont se financer ou pas. On ne sait jamais, en fait. Donc, c'est de plus en plus compliqué.
Un projet qui, lui, a eu son financement, c'est une série écrite par Michel Bussy, dans laquelle vous jouez pour France 2, c'est ça ? L'île prisonnière,
tout à fait. Ça sortira, je pense, à partir de septembre.
Réalisé par Elsa Bennett et Hippolyte Dard, que j'embrasse au passage. Quant à vous, c'est Julia, réalisé par Olivier
Trainer.
Ouais. Vous serez avec Lou Delage à l'affiche et Denis Podalides. C'est l'excellent Grégory Gadebois, tellement je suis fan de ce mec. Ouais. Ça sort quand, Julia ?
Je crois, en septembre.
D'accord. Et puis l'opéra, il y a une suite ou non ?
Opéra, il y a la saison 2 qui a été tournée. Et puis.
Et vous montez les marches à Cannes ?
Eh oui.
Il n'y a pas que votre court-métrage à Cannes, comme actuel.
Avec le film de Rachid Bouchareb, Nos Frangins, avec Reda Kateb, Lina Koudry et Samir Ghesmi, entre autres.
Super. Ouais.
Ça, c'est dans la catégorie Cannes première. D'accord. Vous avez déjà vécu un festival de Cannes, Déborah François ? Oui. Et comment c'était ? Qu'est-ce que vous en avez gardé comme souvenir ?
Oui. Bah, moi, je dis toujours, c'est un peu bateau, mais c'est vrai, j'ai toujours eu l'impression de naître à Cannes. Quelque part.
C'est joli.
Mais c'est vrai, c'est la première fois où j'étais en tant que.
Au-delà d'une naissance, c'est ça.
Qu'actrice, j'avais 18 ans, j'étais hyper impressionnée, puis j'ai eu l'occasion d'y retourner entre-temps en étant un tout petit peu moins impressionnée.
Enfin, t'as eu la palme pour une première, c'est
pas mal,
incroyable.
Le film des frères Dardenne a eu la palme d'or, donc c'était juste dingue. Tout était juste dingue dans cette première édition en fait.
C'est comme Mbappé, première Coupe du Monde, c'est ça.
Ce qui est bien, c'est que ça vous enlève la pression de dire il faut toujours faire mieux. Là, tu te dis bon, de toute façon, je peux pas faire mieux, donc je suis tranquille, quoi. Il y a qu'à faire moins bien.
Raphaël, vous parlez toujours comme ça quand vous êtes détendu.
c'est bizarre.
Je vous ai dit, c'est le problème des filtres.
Raphaël, vous des souvenirs cannois
Le souvenir, on en parlait tout à l'heure de la princesse de Montpensier. Oui, ça c'était ma première fois. Et à Cannes et dans ce festival, et oui, c'est, ça change beaucoup de choses, bien sûr.
Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Déjà désolé, parce que je sais qu'il nous écoute pour monsieur Kadour Boudadi, qui une nouvelle fois ce matin a pu ressentir tout l'amour, le trop-plein de sentiments que madame ressentait à son endroit. Madame, pour qui l'amour, c'est le premier qui accepte, ce sera le mien.
Bravo.
Je suis avec toi, bro.
Courage, monsieur. Désolé, alors pour le règlement intérieur de Radio France qui interdit, strictement interdit, la consommation d'alcool dans les locaux, sauf pour France Info, règlement qui a été bafoué, tambouriné ce matin par Morgane Cadignan, celle qu'on surnomme la corne de brume de Pointe-à-Pitre. Alors, à l'écoute, là, je pense qu'il y a du rhum, du picon et un trait de Suze. Oui, ça, c'est le côté Léla.
La Suze, c'est moi.
Désolé, enfin, pour nos auditeurs non bilingues, qui n'ont pas tout compris de ce que disait Déborah out of the blue, François. C'est normal, hein, she's belge from fucking Liège. Et en plus, elle a écrit son premier long métrage en espagnol qui s'appelle Out of El Azul.
C'est l'enfer.
J'ai envie de dire merci et bon calme, Déborah François. Bon calme, Raphaël Persona.
Merci beaucoup.
Et merci et surtout bravo, parce que, encore une fois, la réalisation est réussie, l'écriture aussi, la direction d'acteur.
Hein.
Et puis.
C'est ça, Écoutez, vous êtes beau, vous êtes bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise.
C'est ça.
Voilà.
On vous déteste.
Voilà. On
est jaloux de la vie que vous avez. Voilà, c'est tout. Demain, Juliette Binoche et Marie-Monique Robin seront avec nous pour La Fabrique des Pandémies, un court-métrage bouleversant, mais qui explique extrêmement bien les choses avec beaucoup de scientifiques.
Et les varans,
c'est un documentaire, pardon.
Avec les varans, notamment.
Avec des varans, exactement. Et des pangolins.
Ouais. Et leurs amis.
On en parlera demain.
Leurs très bons amis.
Les carnets de campagne, c'est maintenant avec Philippe Bertrand. Bonjour Philippe.